si vous m'entendez si vous m'entendez suffisamment, je vais arrêter parce que c'est plus facile et j'ai besoin de bouger les mains. Non, ça va. Alors, vous avez dans les mains deux papiers, l'un recto verso qui comprend 4 pages et qui donne à peu près l'ordre dans lequel je vais développer ma conférence. J'ai tenu à ce que vous ayez ce papier parce qu'il y a 2 citations particulièrement longues qui me paraissent importantes pour notre réflexion aujourd'hui. Il y a aussi quelques erreurs de frappe parce que pendant la nuit, c'est pas moi qui défaisais mon tricot comme Pénélope, mais mon ordinateur ne retenait pas ce que j'avais tapé la veille, et donc j'ai dû retaper ça hier après-midi, et donc il y a quelques fautes de frappe, veuillez bien m'en excuser. L'autre papier ici, c'est lié à ce que dit le professeur Nishiyama, c'est-à-dire j'ai utilisé ce papier un peu partout dans le monde. Il y a quelqu'un qui rit là parce qu'elle me l'a vu utiliser avec elle en Australie en 1980. C'est un papier qui n'est pas destiné aux élèves, mais qui est destiné aux professeurs pour leur faire prendre conscience de certains problèmes interculturels. Vous voyez la date 1971, c'est un journal de province français, Sud-Ouest, Dimanche.
Nous, on a Pays Basque.
1979.
C'est pas le même. On n'a pas Italie.
Ah, mais ça n'a pas d'importance. Non, vous n'avez pas été. Ah, ben vous, c'est celui-là que vous avez. Bon, d'accord. Alors, mais c'est indiqué en bas, Sud-Ouest Dimanche, 5 août 1979. Et ces trois titres avec photos et quelques explications étaient dans la même page du journal un dimanche. Et je devais partir en Angleterre pour parler des documents authentiques qui étaient très à la mode à ce moment-là. Et je me suis dit, simplement en regardant cette page de journal, qu'est-ce que les professeurs britanniques peuvent comprendre à cette page? Et ensuite, je l'ai essayé dans différents contextes, comme je vous ai dit tout à l'heure, et je vous donnerai les interprétations des professeurs de français un peu partout dans le monde de ces trois pages, de ces trois titres. Alors, je commence ma conférence, ça me servira à illustrer certains points que je développerai tout à l'heure. Alors, je commence par l'introduction. À mon avis, une faiblesse de l'approche communicative, mais aussi des approches qui s'inspirent du cadre européen de référence des langues vivantes, c'est de... C'est que les apprenants, dans les classes où l'on suit les manuels qui s'inspirent de ces approches, de ces méthodes, les apprenants sont invités à imiter durant des heures des comportements qui sont étrangers à leurs habitudes, sans que, au cours même de l'apprentissage, quand ils essaient d'imiter, il puisse y trouver un intérêt autre, disons, que de singer, d'imiter ce qu'ils ne sont pas, à des fins qui sont souvent très éloignées de leurs préoccupations immédiates quand ils travaillent dans la classe. Alors, ce matin, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce qu'on a dit sur la méthode immédiate, parce que la manière dont ils procèdent dans la méthode immédiate, au moins pendant un certain nombre d'heures, je pense, peut alimenter l'intérêt des élèves, simplement parce que les élèves ne se connaissent pas entre eux, donc ils font connaissance, etc. Donc ils échangent des choses qui les concernent directement. Mais à mon avis, ça ne peut pas durer très longtemps. c'est-à-dire au bout d'une année, peut-être, il faut faire autre chose. En d'autres termes, dans ces cours de langue, ils ne trouvent pas ou trop peu de quoi alimenter à la fois leurs émotions et leurs réflexions, et donc un contenu qui soit suffisamment riche et intéressant pour maintenir leur motivation de départ. Or, cette motivation de départ, j'en ai parlé assez longuement à Tokyo, apparemment au Japon, mais dans beaucoup d'autres pays du monde, c'est une motivation qui est d'ordre, disons, qui est fonctionnelle si l'on veut, mais d'une manière un peu rêvée. C'est-à-dire qu'ils envisagent peut-être un jour d'aller faire un voyage en France, et le jour où ils feront un voyage en France, on peut vivre en France sans parler français, comme moi je vis au Japon depuis 2 mois sans parler japonais. Ça serait mieux que je parle japonais, mais disons que ça n'est pas ce qui suffit à motiver l'apprentissage d'une langue, le désir de voyager un jour dans le pays où l'on parle cette langue. D'ailleurs, vous le savez bien, vous avez ça dans tous les guides de voyage, vous avez un petit aperçu de la langue, etc., et quelques répliques. Il y en a même qui ont des CD pour s'entraîner à donner, disons, à parler un peu la langue. Ce que dit, je vous ai mis dans la bibliographie le DEA et la thèse de Madame Imeta, qui a interrogé à peu près à 7 ou 8 ans de distance des étudiants japonais sur les raisons qui les poussaient à choisir le français, et il est clair que ces raisons, c'est lié à un choix à la fois où le distinctif, au sens de la distinction sociale de Bourdieu, disons, je crois que dans ces enquêtes, on dit le français, c'est chic de faire du français, n'est-ce pas? Donc il y a ce côté évidemment distinction sociale, mais il y a aussi un côté esthétique, disons, d'apprendre le français pour des valeurs ou des aspirations qui sont de l'ordre, disons, du plaisir, de l'ordre du ludique. Et c'est lié en grande partie au fait que c'est une chance que le français ne soit pas obligatoire, parce que quand une langue est obligatoire, généralement ça crée très souvent des réactions négatives. Je ne sais pas si vous avez suivi le débat il y a 15 jours dans The Japan Times. Il y avait tout un débat sur l'anglais, le fait que les élèves du secondaire n'étaient pas motivés pour apprendre l'anglais, que nombre de professeurs n'aimaient pas l'anglais, etc. Donc l'anglais est imposé, il est appris plus ou moins, mais il n'est pas choisi. Au moins pour le français, dans la plupart des cas, d'après ce que j'ai compris, c'est une langue choisie, par rapport à d'autres langues, l'allemand, le chinois, l'espagnol, l'italien peut-être, et c'est choisi en fonction de raisons qui sont évidemment un peu des stéréotypes, mais ce sont des raisons qui alimentent l'imaginaire des élèves, et je crois qu'il faut en tenir compte, parce que c'est lié quand même à des liens relativement anciens, au moins depuis avant l'époque Meiji, entre la France et le Japon. Donc je crois qu'il faut exploiter ces aspects-là. Alors, un moyen de donner du contenu au cours communicatif, il y a plusieurs moyens. Je pense que par exemple, j'ai lu un article que j'ai trouvé très intéressant où quelqu'un d'entre vous peut-être avait interviewé un professeur japonais et qui disait qu'ils enseignaient la grammaire française. C'était moins pour apprendre, leur enseigner à parler le français que pour leur apprendre à mieux maîtriser c'est vous ? Ah oui, qu'à mieux maîtriser le japonais. C'est une manière de donner du contenu à ces cours, de leur enseigner du savoir grammatical. Mais moi, ma conviction, c'est que le savoir grammatical, comme ces professeurs qui ont répondu donc à une de vos collègues, le savoir grammatical ne suffit jamais, évidemment, à permettre de parler une langue. Ça peut être, disons, une béquille, mais pas beaucoup plus qu'une béquille, et il faut savoir quand il faut l'apprendre ou pas. En revanche, je crois que l'on peut, en plus, disons, des cours communicatifs, sans rejeter les manuels communicatifs ou les manuels qui s'inspirent du CECRL, du Conseil de l'Europe, simplement, je vais essayer de vous montrer quelques pistes permettant d'utiliser peut-être ponctuellement ces manuels autrement, pour donner un certain contenu émotionnel et réflexif au travail des élèves dans la classe. Bon, l'idée que je vais défendre n'est pas une idée neuve, évidemment, c'est lié à quelque chose auquel je tiens beaucoup. C'est-à-dire que je pense que l'apprentissage scolaire, s'entend, d'une langue étrangère, c'est probablement, que ce soit dans l'enseignement secondaire ou dans l'enseignement supérieur, le seul lieu où, actuellement, à l'époque moderne, on peut cultiver ce qu'on appelait autrefois, disons, l'humanisme. C'est-à-dire à devenir plus humain en prenant conscience que d'autres, qui sont aussi des humains, se comportent différemment de nous. Et quand j'ai proposé ce sujet, c'est à cause de ce qu'il y avait dans le descriptif du point 2 de ces réunions, ce va-et-vient entre culture de départ et culture cible. Je crois que cette idée de va-et-vient constant entre les deux cultures doit être exploitée pédagogiquement dans les classes plus que ça ne l'est en général. Alors, avant de vous proposer certains exemples de cette démarche, je voudrais donner quelques précisions. Dans le résumé que je vous ai fait, je dis que je n'utilise pas l'expression langue-culture, mais l'expression langue, une barre culture. Je vais essayer de justifier cette différence entre une barre et un trait d'union. Bon, il est courant, en particulier chez les professeurs de langue, de considérer qu'une langue correspond à une culture. Donc, autant de langues, autant de cultures. S'il y a la culture française, il y a la langue française. S'il y a l'allemand, il y a la culture allemande. S'il y a le danois, il y a la culture danoise, etc. C'est-à-dire que on conçoit la culture au moins avec un petit c, pas la culture, disons, des lettrés. On conçoit la culture comme une sorte de prolongement de la langue. Il y a le verbal et le non-verbal, et le non-verbal accompagne le verbal, donc on les conçoit comme ça. Mais cette idée n'est pas fausse. Il est évident que je vous en donnerai des exemples tout à l'heure, pour utiliser une langue de manière appropriée, c'est-à-dire d'une manière qui soit acceptable par les natifs, il faut savoir autre chose que simplement faire des phrases correctes d'un point de vue grammatical. On peut très bien faire des phrases correctes d'un point de vue grammatical et de ne pas être compris, de ne pas communiquer. Vous le savez très bien. Donc il y a une partie, disons, de la culture, à condition qu'on sache ce qu'on met dessous, qui est nécessaire à l'usage des langues. Je ne vais pas contester ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais l'idée qu'à une langue correspond une culture, cette idée-là est une idée qu'il faut, déconstruire historiquement. C'est une idée qui est relativement nouvelle. Apparemment en Europe, pour le Japon, je ne saurais pas dire, mais en Europe, c'est une idée qui est née en Allemagne chez les romantiques et les pré-romantiques, avec Herder en particulier, Humboldt l'a repris, et puis d'autres comme Fichte, etc. C'est une idée qui a accompagné la naissance du nationalisme allemand en opposition à, disons, au prétendu universalisme français de l'époque. Donc c'est une idée qui a été développée pour des raisons idéologiques, disons, ou politiques, si vous voulez, et elle a été reprise plus ou moins par tous les nationalismes du XIXe siècle, et elle a été reprise au Japon, en particulier dans les années 30. Certains d'entre vous, moi je ne connais pas très bien, mais certains d'entre vous connaissent ça beaucoup mieux que moi. Kato Suichi, c'est ça ?
Suichi,
oui. En parle très bien de ces questions-là, en distinguant ce qu'il appelle, disons, le nationalisme culturel du nationalisme de civilisation. Je reviendrai pas sur cette distinction, mais je crois que l'idée de lier une langue à une culture, c'est une idée qui est liée au développement des nationalismes européens au cours du XIXe siècle. Et donc ça a donné naissance ensuite au niveau de l'enseignement. En Allemagne, vous avez les Kulturkunde, la connaissance de la culture, ou les comme c'était trop marqué par Bismarck et on a changé ça à Landeskunde, connaissance du pays. Vous avez ça avec les background studies britanniques et les cours de civilisation française. Mais chacun ayant plus ou moins sa tradition, mais sur lequel on pourrait venir. Alors, cette idée, je vais très rapidement essayer de montrer qu'elle n'est pas des plus solides. Je répète qu'il est indubitable que l'usage approprié d'une langue engage toujours, dans un contexte et une situation donnée, un implicite non linguistique, au sens que les grammairiens prêtent ou les linguistes prêtent à linguistique, un implicite non linguistique d'ordre culturel, dont on peut dire qu'il engage, en gros, disons, tout ce qu'il faut savoir ou croire pour se comporter verbalement et non verbalement d'une manière acceptable par ceux qui pratiquent ordinairement la langue qu'on est en train d'apprendre. Mais cette association entre langue et culture s'oppose à plusieurs choses. À cette association, pardon, s'opposent plusieurs constats. Saussure disait que les langues n'ont pas de limites naturelles. Et si vous y réfléchissez, l'ère d'usage d'une langue ne coïncide, pour ainsi dire, jamais. Je connais un contre-exemple, c'est tout. Peut-être qu'il y en a d'autres, avec les frontières d'un État. Et lesquelles ne coïncident que localement ou temporairement, historiquement, même quand il s'agit de plusieurs îles, comme le Japon, avec ce qu'on a appelé au XIXe siècle aussi les frontières naturelles. Donc les langues ne se distribuent pas selon les frontières naturelles, selon les frontières politiques. Les langues, si vous prenez l'Europe, il n'y a aucune langue européenne qui coïncide avec les frontières des pays européens. Et au Japon, c'est une île, bon, vous avez vécu longtemps isolé, mais vous savez bien que l'on parle encore au Japon d'autres langues que le japonais, si mon information est bonne. Je ne parle pas des dialectes, je parle des langues différentes qui sont parlées à l'intérieur du Japon. Ensuite, second constat, qui est de l'ordre d'évidence, c'est que l'on peut user de la même langue dans des cultures très différentes. La francophonie, l'anglophonie, la lusitophonie, là où l'on parle portugais, là où l'on parle espagnol, etc. Donc, il y a bien sûr des choses communes entre ces cultures qui utilisent le français ou entre ces cultures qui utilisent l'anglais, mais il y a beaucoup de choses différentes également. Troisième constat, c'est que, vous savez, bon, si vous avez lu des romans japonais comme j'ai fait, dans les romans japonais, on parle moins de la culture française que de la culture occidentale. C'est-à-dire, en gros, les cultures européennes, c'est la culture occidentale. Mais en Europe, un Français, mais un Anglais, etc., peut se déplacer à peu près partout en Europe en ayant l'impression que c'est plus ou moins la même culture. Bon, il y a des différences, mais ces différences entre, par exemple, ce qu'on observe en Italie et ce qu'on observe en France, est-ce qu'elles sont beaucoup plus importantes que les différences que l'on observe entre la région de Lille et la région de Marseille? C'est pour ça que je vous ai mis « Bienvenue chez les Ch'tis », qui est un film qui a eu un succès considérable en France. Et une des raisons de ce succès, c'est que l'exotisme peut se trouver à l'intérieur du même pays. D'ailleurs, au Japon, on dit que quand on vient à Osaka, ben, les gens parlent un autre dialecte, ils aiment la bonne chair, ils aiment rire. Donc, à l'intérieur d'un même pays, évidemment qu'il y a des différences culturelles, même s'il y a des choses communes. À l'intérieur de l'Europe, c'est un peu la même chose, si vous voulez. Je me rappelle de Dominique Fernandez qui est un académicien français maintenant. Une fois où j'allais en Sicile, j'avais lu un livre de lui sur la Sicile, et il parlait de ce qu'il appelait comme typiquement sicilien le salotto. Le salotto, c'est un petit salon qu'on a dans les maisons, mais qu'on n'ouvre jamais. On couvre les chaises avec des tissus pour pas qu'il y ait de poussière, etc. Alors, lui, c'était très sicilien, mais il ne savait probablement pas, parce qu'il était parisien et d'un milieu très bourgeois, que dans toutes les campagnes françaises, il y a des salottos comme ça. Exactement. Donc, vous voyez, il faut faire très attention sur ces questions-là, et c'est pour ça que je vous ai cité Sapir en anglais. Parce que Sapir a été exploité ensuite par un Américain qui s'appelait Worth, et qui a poussé certaines thèses de Sapir dans un sens, un peu dans le sens de Humboldt et de ceux dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais à mon avis, Sapir ne se réduit pas à ce que dit Worth, et si vous lisez, il dit très clairement que les langues, les cultures, etc. se mélangent, suivent des cours. Dans les cours de culture ou de civilisation française, je crois qu'il faudrait tenir compte de cette réalité extrêmement mouvante, et de ne pas appeler français ce qui n'est pas nécessairement français, qui est peut-être beaucoup plus large. Hein. Je vous ai cité également l'anthropologie structurale de Lévi-Strauss, qui critique beaucoup Worth. En somme, il reproche à Worth de parler de culture, mais en définissant la culture par la langue. Alors évidemment, après sa thèse, vous connaissez la thèse de Worth. C'est-à-dire que selon lui, si par exemple en espagnol, en français, il n'y a qu'un verbe être, comme en anglais, to be or not to be, hein, être ou ne pas être. Bon, en espagnol, vous avez ser et estar. Donc, on peut imaginer que dans la tête des Espagnols, dans l'esprit des Espagnols, il y a deux conceptions du temps différentes que n'ont pas les autres. Mais ça aboutit à des choses comme ce philosophe allemand connu qui est Heidegger, disant que ce qui se dit en allemand n'était pas traductible dans une autre langue. Donc à ce moment-là, c'est nier le genre humain, c'est nier ce qu'il y a de commun à l'humanité, et ce qu'il y a de commun à l'humanité, c'est quand même fondamentalement que vous soyez, si je peux dire, noir, jaune, blanc, rouge ou gris, ou café au lait, peu importe votre race, si vous êtes élevé dans un coin de la terre où l'on parle une langue, et bien si vous êtes un petit enfant, vous apprendrez cette langue sans difficulté. Il y a quand même de ce point de vue-là, du point de vue linguistique, quelque chose de très profond dans l'humanité qui n'a pas été, je ne vais pas développer ça, mais qui n'a pas été repris par toutes les religions de la même manière. Réfléchissez, il y a des religions pour lesquelles Dieu parle aux hommes dans chacune de leurs langues, et il y a d'autres religions où Dieu parle dans une langue. Bon, je passe là-dessus, maintenant je passe au point 2, critique des cours de civilisation ou de culture étrangère. Je vais être obligé d'être très rapide, sinon je ne pourrai pas aller à la fin de mon exposé. On peut enseigner la langue sans la culture. C'est très pratiqué en fait dans le monde. Je me souviens dans les pays ex-communistes, y compris en Chine, pas très loin de chez vous, dans les manuels, on enseignait la langue indépendamment de la culture française. Ou plus exactement, on reprenait dans la culture française ce qui était compatible avec l'idéologie du pays communiste. Hein. Ça peut se passer aussi, très souvent ça se passe dans les cours de langue où les élèves et le professeur sont natifs de la même culture. Comme ils sont natifs de la même culture, si le professeur, ne cherche pas à aller plus loin que la langue, eh bien, il parle par exemple en français, mais toute la culture de la classe reste une culture la culture native des élèves. Ça peut arriver également. La seconde chose, mais ça vous le connaissez, donc je peux aller assez vite, c'est que dans les, on enseigne très souvent, par exemple dans la méthode communicative, mais la méthode qui a mis ça en œuvre, une des premières, c'est ce qu'on appelait la méthode structuro-globale audiovisuelle. Si vous regardez la préface de Voix Images de France, le premier manuel audiovisuel, il est dit dedans que situation et langage sont étroitement associés et solidaires, et même sous sa forme la plus humble, c'est-à-dire un petit dialogue, la langue est toujours liée à une civilisation. Mais vous savez que la civilisation dans Voix Images de France, de Vive Voix et d'autres est implicite, puisque elle apparaît à travers les images, surtout qui sont des images en principe faites par un dessinateur de la langue enseignée et qui représentent des réalités de ce pays. Donc cette culture nécessaire à la pratique d'une langue apparaît de manière implicite. Et je dirais que dans les cours communicatifs ou les cours dans la perspective actionnelle, c'est encore ça, sauf que, cette culture qui accompagne la langue dans les pratiques ordinaires de la langue n'est pas toujours aussi bien montrée que dans les cours audiovisuels d'il y a 30 ans ou 40 ans. La troisième manière de faire, celle que pratiquent certains d'entre vous, c'est enseigner la culture, indépendamment de la langue. Alors ça se passe souvent quand vous enseignez la culture comme un ensemble de connaissances, quand on dit cours de civilisation française, etc. À mon avis, ces cours peuvent intéresser les élèves parce qu'il y a un contenu, mais ces cours généralement n'engagent pas suffisamment la pratique de la langue. Et je reviendrai là-dessus tout à l'heure parce qu'il me semble que ce qu'il y a de formateur dans l'apprentissage d'une langue demande un effort de pratique de la langue, un essai de se mettre à la place de l'autre qu'on ne trouve pas dans, ou pas toujours, du moins dans les cours de civilisation. En plus, les cours de civilisation respectent, disons, les cours universitaires, c'est-à-dire que c'est un discours continu, donc qui homogénéise des réalités souvent beaucoup plus fluctuantes, et surtout qui parfois au moins cherche à donner des explications, des causes. C'est pour ça que je vous ai cité une Française mariée à un Américain. Vous regarderez la bibliographie en fin de papier là, qui met en garde contre ce qu'elle appelle la tentation de l'explication, celle qui vise à découvrir les causes profondes de la spécificité culturelle de tel ou tel groupe. Et je crois qu'elle a raison. Quand on cherche des explications, on cherche des explications qui sont toujours, les explications sont toujours, disons, plus ethnocentristes, c'est-à-dire marquées par la langue dans laquelle elles sont données. Donc si vous faites ça dépend comment on parle la langue étrangère, mais bon, c'est très difficile de tenir sur la culture ou sur la civilisation un discours objectivant. Je sais bien que beaucoup y prétendent, mais ce n'est pas facile. Donc ce vers quoi je voudrais vous orienter ce soir, c'est mon troisième point de la première partie. Ce que Victor Segalen, je ne sais pas si vous connaissez Victor Segalen, à mon avis c'est celui qui a écrit le meilleur roman sur la cité interdite de Pékin, ça s'appelle René Leiss, et un des meilleurs sinologues du monde a repris le nom de son personnage comme pseudonyme, René Leiss, mais c'est le pseudonyme d'un personnage de roman. Et Segalen a beaucoup voyagé avant d'écrire ce qu'il écrit là, et ce qu'il écrit là, que nous allons lire rapidement, il l'écrit en 1908, alors qu'il a commencé à apprendre le chinois. Et vous avez sous la plume d'un écrivain un peu les appréhensions et la fascination qu'un élève peut avoir pour une langue étrangère quand il commence à l'apprendre, et la manière dont il se défend d'être, disons, englouti dans cette langue étrangère. Donc il y a ce jeu, disons, de fascination et d'appréhension qu'il exprime très bien, moi je ne pourrais pas le dire aussi bien. Que ceux-là goûteront l'admirable sensation qui sentiront ce qu'ils sont et ce qu'ils ne sont pas. L'exotisme n'est donc pas cet état kaléidoscopique du touriste ou du médiocre spectateur, mais la réaction vive et curieuse au choc d'une individualité forte contre une objectivité dont elle perçoit et déguste la distance. C'est-à-dire que tout le plaisir de l'admirable sensation, c'est de se dire « je ne pourrai jamais être chinois, mais je sais que les Chinois existent, je sais qu'ils se comportent différemment de moi », et cette appréhension de la différence dans le comportement des Chinois renforce mon individualité. D'où la parenthèse sur laquelle je vais revenir. Les sensations d'exotisme et d'individualisme sont complémentaires. L'exotisme n'est donc pas une adaptation, n'est donc pas la compréhension parfaite d'un hors soi-même qu'on étreindrait en soi, mais la perception aiguë et immédiate d'une incompréhensibilité éternelle. Ça, c'est peut-être un peu exagéré, mais ce que j'aime dans le cadre européen des langues, là, c'est que il y a plusieurs phrases qui remettent en cause l'idéal des futurs agrégés français, etc., en anglais, c'est-à-dire d'être plus anglais que les anglais, d'être plus allemand que les allemands, de le parler, c'est-à-dire d'être un parfait locuteur de la langue étrangère que l'on parle. Le cadre européen a le mérite de montrer que on peut très bien se débrouiller dans une autre langue sans être une caricature d'un natif de la langue. Bon, au Japon, vous avez une expression, d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'utilisez, mais qui m'avait beaucoup frappé la première fois où je suis venu. Je m'étais rendu compte que les Japonais n'aimaient pas trop les Européens qui se tatamisent. Parce qu'ils trouvaient qu'ils devenaient trop semblables ou apparaissaient comme une caricature un peu d'eux-mêmes, et ça les gênait un peu. Ça ne peut pas être la compréhension parfaite d'un or soi-même qu'on étreindrait en soi, c'est-à-dire qu'il deviendrait soi. Devenir soi, dans ce cas-là, ça veut dire ne plus être ce que l'on est nativement, disons. Partons de cet aveu d'impénétrabilité. Ne nous flattons pas d'assimiler les mœurs, les races, les nations, les autres, mais au contraire, éjouissons-nous. C'est un néologisme, ça, n'est-ce pas ? De ne le pouvoir jamais, nous réservons ainsi la perdurabilité du plaisir de sentir le divers. Bon, c'est beau. C'est un tout petit paragraphe comme ça, et c'est titré l'individualisme. Alors, quand j'ai voulu reprendre ce paragraphe que je connais depuis longtemps, je me suis dit, mais au Japon, ça doit poser un problème, parce que vous savez que l'individualisme au Japon n'est pas vécu tout à fait comme en Europe. C'est pour ça que je vous ai mis ce passage, cette citation de Kato, dit que l'individualité, évidemment, existe au Japon, mais à condition qu'elle ne se manifeste pas, qu'elle soit cachée. Vous voyez, il dit « Avoir l'air comme tout le monde, c'est le fondement même de l'individualité au Japon. Forcément dissimulée, forcément clandestine, passant inaperçue dans une sorte de comédie qui se poursuit jour après jour. » C'est-à-dire que, bon, il développe, c'est la thématique du masque, n'est-ce pas, qu'on trouve chez Mishima et chez beaucoup d'autres, mais pour d'autres raisons. Pour lui, l'individualité doit pas... Et le même thème, je l'ai retrouvé chez un livre que je vous dans un livre que je vous recommande, d'André Lénoré. André Lénoré, c'est quelqu'un qui a passé 25 ans au Japon, qui parlait parfaitement le Japon, qui était un prêtre ouvrier qui travaillait dans la région de Kawasaki. Et il a écrit un livre que vous avez en bibliographie qui s'appelle « Le clou qui dépasse ». Et je vous ai mis un passage. Le « il », là, il souligne aussi le sens exacerbé de l'appartenance au groupe qui les fait impitoyablement rejeter ceux qui n'entrent pas dans les normes. Là, il rencontre les « ils », ce sont des intellectuels japonais qui discutent entre eux, et donc ces intellectuels japonais reprennent plus ou moins l'opinion de Kato dans ce passage. « Malheur à la personnalité de l'individu, au clou qui dépasse. » J'avais cependant, dit alors Lénoré, sous les yeux de remarquables exemples. Et plus loin dans son livre, il cite la charte d'un syndicat de la chimie où j'ai trouvé quelque chose traduit par Lénoré, mais qui reprend exactement ce que dit Ségalène, mais pas sur le mode poétique, c'est plutôt sur le mode, disons, politique ou humain. C'est aussi en reconnaissant les autres différents de nous que s'éclaire notre propre identité. Et c'est dans l'article 8 de la charte de ce syndicat. J'ai trouvé ça très bien. Donc, je vais passer maintenant à ma seconde partie. Je vois que je suis déjà un peu en retard. À propos de la notion de crible phonologique. Certains d'entre vous le connaissent, cette notion, sans doute, mais je pense qu'elle n'est pas toujours interprétée peut-être comme on devrait. Donc, je reprends rapidement. Le système phonologique d'une langue est semblable à un crible à travers lequel passe tout ce qui est dit. Seul reste dans le crible les marques phonétiques pertinentes pour individualiser les phonèmes. Chaque homme s'habitue dès l'enfance à analyser ainsi ce qui est dit, et cette analyse se fait d'une façon tout à fait automatique et inconsciente. Mais en outre, le système... Bon, je passe sur la suite. Vous avez à peu près l'idée dans la tête. Moi, c'est une des choses qui m'a le plus marqué quand j'ai commencé à enseigner le français langue étrangère. Vous avez une classe, par exemple, avec des élèves, je ne sais pas, dont la langue maternelle est l'arabe et d'autres, la langue maternelle est l'espagnol. Vous leur dites de répéter, par exemple, dans un petit dialogue, « tu as bu ». Évidemment, ce « u », ça pose problème aux japonais, mais dans beaucoup d'autres langues. Hein. « Tu as bu ». Si vous demandez, vous pouvez ajouter du vin si vous voulez. Mais c'est plus compliqué. Donc, si vous demandez à un débutant qui parle l'arabe ou une variété d'arabe, disons un dialecte arabe, de répéter, il va vous dire « ti abi ». Vous lui dites « non, tu as bu ». Il dit « ti abi ». Plus vous lui dites de faire attention, plus il prononce quelque chose qu'on entend comme un « i ». L'espagnol, lui, va répéter « tu as bu ». Si vous dites « non, tu as bu »,« tu as bu », en plus, le « vous » et le « bon ». C'est-à-dire qu'au début, comme jeune professeur, on pense qu'il y a quelque chose qui leur bouche les oreilles. Après, on se dit « c'est quelque chose d'articulatoire ». C'est-à-dire ils ne peuvent pas prononcer, par exemple, le B, le V, c'est un peu pareil en espagnol comme disons, pour les japonais. Mais en fait, l'idée de Trubetskoy, c'est que c'est quelque chose qui est dans le cerveau. C'est-à-dire l'oreille propose, les yeux proposent, mais c'est le cerveau qui dispose. Et c'est le cerveau qui impose à la perception un crible. Et donc, c'est le cerveau qu'il faut faire fonctionner pour comprendre cette différence. C'est pour ça que les corrections articulatoires, ça ne marche pas très souvent. Parce que les corrections articulatoires ne travaillent pas sur ce qui se passe dans la tête. Alors, cette idée du crible phonologique, je crois qu'on peut l'étendre à tous les niveaux de l'apprentissage de la langue. C'est ce que je vous ai mis en deux, que j'appelle cultiver la perception interculturelle. Et je suis content que le professeur Nakamura soit ici, parce que j'ai repris des passages de son livre. Il dit « Nos débutants s'appuient inconsciemment sur celui, c'est le réseau, de leur langue maternelle, sinon sur celui de l'anglais. » À mon avis, ils s'appuient sur les deux. C'est-à-dire qu'ils ont des cribles, non seulement liés au japonais, mais des cribles liés à la première langue seconde qu'ils ont appris. Et ces cribles n'existent pas qu'au niveau phonologique. C'est peut-être au niveau phonologique qui sont le plus évident, mais ils existent à d'autres niveaux. C'est les crimes, j'ai mis mimo-gestuels. J'en ai pas trouvé d'exemple dans l'ouvrage de M. Nakamura, mais c'est évident. Cette salutation-là, en Europe, c'est où est-ce qu'on la trouve? Il n'y a pas tellement d'endroits où on fait ça. Comment? Oui, en Thaïlande, par exemple. Mais en Europe, on trouve ça parfois dans certaines cérémonies religieuses, à l'église, mais c'est à peu près tout, ce genre de salut-là. Tandis que, bon, etc. Mais il y a beaucoup d'autres. Ce matin, le Simon Cerverin disait qu'il fallait apprendre aux étudiants, pour dialoguer en français, à regarder les autres dans les yeux. Bon, eh bien ça, c'est aussi quelque chose qui est important, c'est aussi un cri. On est habitué à se comporter en face à face d'une certaine manière. Par exemple, la distance entre lesquelles on parle varie d'une culture à l'autre. Eh bien tout ça, c'est lié à ce que j'appelle des cribles mimo-gestuels. Vous avez aussi des cribles graphiques. Moi, je dois dire que je suis émerveillé par le fait de la capacité graphique des étudiants japonais, mais c'est une capacité qui est bien supérieure à celle des occidentaux. Simplement, réfléchissez, pendant l'enseignement primaire, ils apprennent au moins quatre types d'écriture. Les kanji, les hirakana, les katakana et le romanji. Donc il y a une sorte d'habileté à la graphie qu'on ne possède pas en Europe, où on est habitué simplement à un système d'écriture. Et évidemment, cette habileté à la graphie fait qu'ils prêtent attention à des choses auxquelles on ne prête pas attention. Je racontais tout à l'heure qu'à la banque, par exemple, on m'a fait corriger chaque fois que j'écrivais mon prénom, I. On me disait qu'il fallait mettre un petit trait au-dessous et un trait très haut. Pourquoi ? J'ai pas compris pourquoi. Peut-être certains d'entre vous savent pourquoi. Peut-être pour que ça soit pas confondu avec un L, mais il y avait un point au-dessus. Donc là aussi, il y a, disons, des choses qui font que quand vos étudiants japonais apprennent à écrire le français, il y a des problèmes de crible. Alors, je vais prendre rapidement un exemple ici. Bon, ceux qui n'ont pas Italie, c'est pas grave, mais vous avez le second titre. Pays Basque, veto de Paris pour Bayonne, Nantes, Saint-Sébastien interdit. Il y a là deux petits faits. Par exemple, comment est-ce que vous interprétez le petit tiré entre Nantes et Saint-Sébastien? Et comment vous interprétez les deux points à la fin de veto de Paris pour Bayonne?
Nantes contre Saint-Sébastien.
Pardon?
Nantes contre.
Oui, mais vous êtes française, vous.
Oui.
Oui, mais. oui, c'est-à-dire que il faut. Mais je reviendrai tout à l'heure dessus. Il faut l'interpréter par contre. Mais dans beaucoup de pays, j'ai vu, et ce qui est un peu normal, certains interprètent de Nantes à Saint-Sébastien. Dans un annuaire de chemin de fer ou de... Bon, vous avez souvent des choses comme ça. Et les deux points? Et les deux points? Vous posez pas la question. Ça sert à quoi les deux points dans la ponctuation française? Est-ce qu'on l'utilise dans la ponctuation japonaise? Je crois pas, non. Non, il n'y a pas deux points dans la... Bon, alors là aussi vous avez des petits cribles, on y reviendra tout à l'heure. Bon, les cribles morphosyntaxiques, alors là monsieur Nakamura en cite beaucoup. En particulier, j'ai bien aimé son expérience de la phrase que vous avez... Et alors, je ne sais pas si la phrase est en romanji ou en restitution selon l'alphabet français, je ne sais pas. Bon. Mais vous savez, il obtient 25 traductions différentes en japonais, et parmi ces traductions en japonais, vous en avez beaucoup d'erronées, en particulier liées au passé composé et à l'imparfait. Et je crois qu'il a sans doute raison quand il dit que beaucoup sont liés à la confusion, par exemple, entre present perfect et passé composé. Là aussi, l'anglais est présent derrière. Bon, je vous ai mis deux passages. Il cite et aussi un exemple très probant de crible lexical avec ma mère et professeur de Kumon, n'est-ce pas? Kumon, on dit. Ou alors, quand il parle des faux amis, donc comme le café en français qui est à la fois la boisson et le lieu, et le, comment vous dites, Ketisen, je crois. Titasen, oui, qui n'est pas bon. D'accord. Vous avez aussi, évidemment, ça c'est plus... mais il en parle, je pourrais en citer beaucoup d'autres, des cribles discursifs et conversationnels. Conversationnels, par exemple, ce matin, on a parlé un peu de ça. Dans la conversation en France, en français, et en France et ailleurs qu'en France, dans d'autres pays on utilise le français, on doit répondre aussitôt à la question de l'autre, c'est-à-dire ne pas attendre. Apparemment au Japon, il y a un temps de latence avant d'apporter la réponse. Hein? Et je me souviens d'un jeune professeur américain qui avait épousé une japonaise qui m'avait dit oui, ça crée des problèmes dans mon couple parce que moi je me dis mais pourquoi réfléchit-elle avant de répondre, et elle me dit mais si je te réponds comme ça c'est que je te répondrai sans réfléchir. Enfin oui, mais il y a des habitudes de ce type et beaucoup d'autres, et ce que dit des mots comme bonjour, au revoir, etc. Je vous laisse lire ce passage là et il y a des cribles qui sont liés également aux valeurs. Alors pour illustrer ça, je reprends ce que j'utilise avec les professeurs. Pays Basque, veto de Paris pour Bayonne, Nantes, Saint-Sébastien interdit. Évidemment, si vous aviez le journal sous les yeux, vous regarderiez à la page 4 et vous comprendrez ce que c'est. Mais ce titre m'intéressait parce que les professeurs auxquels j'avais affaire, évidemment, connaissent, c'est des professeurs de français, généralement, donc ils connaissent la géographie française. Ils savent où est Bayonne, où est Nantes, où c'est Sébastien, où est le Pays Basque. Ils connaissent les mots et pourtant ils ne comprennent rien. Ou ils comprennent plus exactement, ils comprennent des choses que ne comprennent pas ceux qui lisent le journal, qui ont lu le journal Sud-Ouest en 1979. D'accord ? Alors, je vais vous dire peut-être certaines... Par exemple en Chine, je me souviens d'un professeur qui traduisait la porte étroite de Gide. Ah, on m'a donné un renseignement l'autre jour, c'est que la porte étroite de Gide a été traduite au Japon en 46 ou 47 et ça a eu un très grand succès au Japon parce que le titre en japonais faisait penser aux examens d'entrée dans les universités japonaises, et donc le traducteur a pu se faire construire une belle maison dans les environs de Tokyo à partir de la traduction de la porte étroite. Hein. Alors ce professeur traduisait donc en chinois la porte étroite de Gide, et vous savez comment il m'a interprété ce titre? Il me l'a interprété en disant Paris interdit la région de Nantes à Saint-Sébastien aux touristes pendant l'été. Mais vous comprenez ce qui se passe, c'est ce qui se passe dans vos classes. C'est-à-dire que quand vous présentez un document authentique aux élèves, qu'est-ce que vous avez fait? Vous l'avez extrait d'un contexte, c'est-à-dire d'un moment, d'un lieu, d'un environnement de connaissance, etc. Et vous le mettez à des milliers de kilomètres et parfois à plusieurs années de distance dans un lieu pour lequel le document n'a pas été prévu. Donc pour interpréter ce document, que font les étudiants? Ils font comme les professeurs, ils mobilisent les connaissances qu'ils ont. Et les connaissances qu'ils ont, évidemment, c'est les connaissances liées à leur pays. Donc ils interprètent comme ça. Vous savez comment j'ai utilisé ça en Allemagne. Quand j'ai utilisé ça en Allemagne, l'Allemagne avait beaucoup d'autoroutes et la France en avait beaucoup moins. Comment est-ce que les Allemands ont interprété ça? Ils ont dit le gouvernement français interdit la construction d'une autoroute entre Nantes et Saint-Sébastien. Donc c'est un refus pour Bayonne. Eh bien oui, parce que Bayonne ne sera pas désenclavée, et tout ça, ça se passe au Pays Basque. Donc, ils avaient compris quelque chose, mais c'est pas ce que voulait dire le journaliste. Bon, je pourrais vous citer d'autres exemples. En fait, ce que veut dire le journaliste et ce que les gens qui s'intéressent au football en 79 ont compris tout de suite, c'est le ministère de l'Intérieur à Paris interdit le match de football Nantes-Saint-Sébastien qui doit avoir lieu à Bayonne parce qu'on craint des attentats au Pays Basque. Mais vous voyez qu'il y a tout un contexte qui manque. Alors évidemment, vous me direz, dans la classe, c'est pas comme ça. C'est peut-être moins net, mais c'est les mêmes problèmes. Dans ce que j'ai mis, les cribles liées aux valeurs, regardez à droite, ne plus revoir ce geste ignoble. N'est-ce pas? Hein? Alors ignoble, évidemment, le mot pose problème, mais je me souviens que certains professeurs ont cherché dans un dictionnaire, mais là aussi, ils ont interprété selon leurs valeurs. Par exemple, en Angleterre, je me souviens, ne plus revoir ce geste ignoble, eh bien, parce que je les faisais travailler par petits groupes avant, ben c'était ne plus laisser faire son caca au chien le long des routes.
Mais au Japon, ça serait possible, ça. Sans le sac plastique, etc. Hein, serait...
Voilà, sans, oui, c'est ça, c'est ça. En Chine, l'interprétation a été voler les chiens pour les manger. Bon, en fait, ça, pour les Français, il n'y a pas de doute, c'est une campagne tous les étés, parce que les gens, quand ils partent en vacances, abandonnent leurs chats et leurs chiens, et donc là, il y a des campagnes de presse contre l'abandon des animaux domestiques. Alors, ça se fait en Angleterre, mais en Angleterre, c'est tabou, on n'abandonne pas, donc on n'en parle pas, évidemment, dans les journaux. D'accord ? Et dernier exemple, ça je n'ai pas parlé, mais parce qu'il faudrait, c'est ce que les littéraires appellent ça l'intertextualité, ou les linguistes appellent ça la polyphonie. C'est-à-dire que quand on parle à l'intérieur de quantité d'autres textes et à l'intérieur de quantité d'autres voix. On s'entreglose, comme disait Montaigne. Vous en avez un bon exemple ici. Ouvrez l'éventail. Alors vous voyez, il y a une jeune femme. Bon, normalement la photo est en couleur, etc. Je me souviens qu'en Espagne, ouvrez l'éventail, on m'a interprété ça en disant il fait chaud, qué calor, et on agite pour se donner un peu d'air. Bon, ça peut être ça, on peut comprendre, c'est pas faussement comprendre. Mais en fait, ce n'est pas ce que le journaliste a voulu éveiller chez les lecteurs de Sud-Ouest. Pourquoi est-ce qu'elle a ses doigts de pied au premier plan? Parce qu'il y a une expression courante en français qui est « avoir les doigts de pied en éventail », ça veut dire « ne rien faire », « far niente », comme disent les Italiens, là. et c'est « avoir les doigts de pied en éventail ». Alors, « ouvrez l'éventail », ça veut dire n'est-ce pas simplement prenez du bon temps parce que c'est l'été, etc. Hein? Mettez-vous comme cette dame sur la plage, etc. Donc ça c'est lié à une intertextualité. Enfin, je vous cite pas d'autres interprétations, mais je me souviens dans les pays anglo-saxons, ouvrez l'éventail, évidemment, ils l'interprétaient avec des connotations plutôt sexuelles. Peut-être que c'est un peu bon. Alors, comment, pédagogiquement, je vais arrêter puisque je n'ai qu'une heure, comment pédagogiquement exploiter ces cribles? Je crois que si c'est le professeur qui donne des explications, ça ne présente pas beaucoup d'intérêt. Il faut, je crois, comme il est dit dans le diagnostic de Simon Cerverin, il faut faire parler l'élève lui-même, de lui-même. C'est-à-dire qu'il faut partir des interprétations des élèves, parce qu'ils ne peuvent pas partir, ils ne peuvent pas inventer certaines choses. Donc il faut partir de la manière dont ils interprètent plutôt spontanément, exactement comme tout à l'heure j'avais... tout à bout ou ti à bi, il faut bien partir de là. Mais ça ne sert à rien de les corriger en insistant sur la faute, puisque plus vous insistez sur la faute, plus ils la commettent. Donc au contraire, il faut les détendre. Bon, pour la phonétique, l'intonation, le rythme, Monsieur Kanamura le dit très bien, c'est essentiel. C'est ce que, disons, ce qu'on appelle la correction phonétique verbotonale est fondée là-dessus. C'est-à-dire, une fois que le rythme et l'intonation sont en place, la plupart des sons sont en place. Il y a peu de choses à corriger. Et donc, partir des interprétations des élèves, et vous, professeur, de montrer simplement que certaines interprétations ne correspondent pas à la manière dont des Français interpréteraient, ou des gens qui parlent français couramment interpréteraient. Alors, c'est-à-dire que vous devez admettre tout ce qui est possible par la langue et la culture française, en disant, attention, si vous interprétez comme ça, eh bien, les Français n'interpréteront pas comme ça. Par exemple, l'interprétation, ce geste ignoble, il n'y a pas beaucoup de chances que des Français interprètent ça, empêcher les animaux de faire leur caca le long des routes. Hein. C'est pas possible. Mais Nantes-Saint-Sébastien, comme l'interprètent les Allemands, c'est une possibilité, mais ça n'est pas, parce qu'il y a d'autres choses dans ce titre. Nantes, là, ça désigne l'équipe de foot de Nantes. Or, vous savez très bien que dans d'autres pays, les équipes de foot ne se nomment pas par le nom de la ville. D'abord parce qu'il y en a plusieurs, prenez l'Italie par exemple, on ajoute souvent dans les journaux français le je sais plus quoi de Milan, ou la Juventus de Milan, de Turin, oui. Voilà, c'est un accommodement pour aider à comprendre. Donc, il me semble, je suis un peu rapide là-dessus, il faudrait qu'on voit ça, comment faire ça plus précisément dans les classes, mais je pense que c'est une manière, disons, de susciter de temps en temps, ponctuellement, dans un cours qui est dominé par le communicatif, qui est dominé par les échanges, des réflexions de ce type, où l'élève prend conscience de son identité peut-être personnelle, mais surtout de son identité, disons, sociale, culturelle, ce qu'il est devenu à travers sa formation initiale, en découvrant que les autres se comportent pas tout à fait différemment. D'où ma conclusion. À Tokyo, j'avais cité un poète Edmond Jabès, là j'ai repris plutôt Michel de Montaigne, qui dit « Je ne sache point de meilleure école à former la vie que lui faire, lui c'est l'élève, goûter une si perpétuelle variété de formes de notre nature. » C'est un peu ce que disait aussi Ségalène tout à l'heure. Voilà, j'ai respecté le temps, juste.
Merci beaucoup Henri. Merci beaucoup Henri pour cet exposé si brillante et qui nous a permis, je crois, de vivre l'admirable sensation dans la réflexion didactique, je crois. Et donc, nous avons encore une demi-heure pour discussion. Donc, si vous avez des questions dans la salle.
Oui, allez-y.
Ah oui. Le micro ne marche pas très bien.
Mais je pense que si vous parlez assez fort, on vous attendra.
Oui. Le micro ne marche pas bien, donc si vous avez des... Si vous pouvez parler fort. Ah bon, c'est pas lui.
Non, c'était pas pour...
Ah bon, d'accord.
Pour réparer le micro.
Ah oui, d'accord.
Ah bon.
Bon.
Vous êtes tellement convaincu que vous n'avez pas de questions.
À la typologie des cribles que vous avez proposée, en termes d'activité de classe, comment est-ce qu'on pourrait décliner tout ça? Parce qu'en fait, cette riche variété de notre humaine nature, elle est tellement multiforme.
Mais c'est pour ça que j'ai dit, pardon, c'est pour ça que j'ai dit ponctuellement. C'est-à-dire que à Tokyo, j'ai beaucoup insisté sur ce que j'ai appelé le moment opportun, le kairos des Grecs. C'est-à-dire que dans une classe, il y a des moments où le professeur dit « Tiens, ça peut être intéressant pour une prise de conscience. » Voilà. Et à ce moment-là, y consacrer pas très longtemps, vous n'allez pas passer des heures, mais dire « Comment tu interprètes ?» Il peut le dire au début en japonais. S'il peut pas le dire en français, mais il faut passer. Mais vous, c'est-à-dire saisir le moment opportun où vous pouvez lui montrer que son interprétation, c'est une interprétation qui est liée à sa culture de départ ou à ses cultures de départ. Ben, c'est-à-dire parce que je crois que j'adopte la même attitude en grammaire. Si le professeur répond. S'il donne une explication, l'élève ne fait pas ce travail intérieur qui lui permet de sentir ce qu'il est en sentant ce que les autres ne sont pas, n'est-ce pas? C'est pour ça que je crois que ce que je propose là, ça accompagne bien les cours communicatifs ou les cours audiovisuels comme on faisait autrefois. C'est-à-dire que ça ne peut se passer que si l'élève a fait un effort préalable pour s'identifier à la culture étrangère, n'est-ce pas? Si il a essayé de manière imaginaire de se mettre à la place, disons, d'un Français, par exemple, et que dans son essai, eh bien, tout d'un coup, il se rend compte que ça le contrarie, que ça le gêne, qu'il y a un petit choc, disons, et c'est à ce moment-là qu'il fait le retour sur lui. Parce que quand vous enseignez, par exemple, en japonais, la culture ou la civilisation française, bon, il y a des choses qui peuvent vous surprendre, mais votre corps n'est pas engagé dedans. Vous n'avez pas essayé d'imiter la culture étrangère. Tandis que quand on est dans un cours de langue, il y a cet effort préalable. Et c'est en réaction, après avoir essayé de s'identifier, de constater qu'on ne peut pas s'identifier totalement, que ça oblige à un retour sur soi et à prendre conscience de ce qui nous fait, disons, en tant qu'être social, particulier à l'intérieur d'une culture. Vous voyez, il faut qu'il y ait, disons, la volonté et l'essai d'aller vers l'autre pour qu'on ait ce retour. Sinon, on ne vit pas ce retour, on n'est que dans la distance. C'est ce qu'il appelle l'état kaleisko. C'est comme quand on lit, disons, des romans ou qu'on voit un film un peu exotique. On ne se sent pas engagé dedans. Tandis que quand on essaie d'apprendre une langue, quand on essaie d'imiter l'autre, eh bien, ça engage aussi et le corps et l'imaginaire, et à ce moment-là, on peut éprouver vraiment une sensation, ce qu'il appelle l'admirable sensation. Je ne sais pas si j'ai répondu.
C'est la raison pour laquelle il est plutôt contre les cours de culture dans la langue de l'apprenant, et prenez l'apprentissage de la différence culturelle à l'intérieur de l'apprentissage de la langue.
Voilà, exactement. Oui, vous le dites mieux que moi. Oui, oui, c'est ça. Oui, 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 c'est...
Du chemin depuis Tokyo, parce que j'avais été un peu surpris par votre première... la conférence que vous aviez donnée. Vous aviez surtout exposé les motivations et l'importance de l'imaginaire, nourrir cet imaginaire pour entretenir la motivation, je me demandais un petit peu où est-ce qu'on pouvait en arriver par rapport à l'apprentissage de la langue cible. Maintenant, ces choses sont plus claires.
Oui, c'est-à-dire parce que si vous avez suivi des cours, moi j'ai essayé avec le chinois mandarin par une méthode qui s'appelait Silent Way, et vous, je sais pas si vous connaissez cette méthode, le professeur ne parle pas, et donc comme il ne parle pas, ça oblige les élèves à parler, si vous voulez, vous prenez plaisir à imiter ou à singer, comme je disais, l'autre à un moment, mais au bout d'un moment c'est lassant, vous comprenez, de toujours essayer d'imiter l'autre. Alors dans ce qu'on appelait la méthode immédiate, là évidemment chez des adolescents qui sont inquiets d'eux-mêmes, qui veulent faire connaissance des autres, on peut jouer là-dessus, mais il faut quand même, ça a été souligné ce matin, les élèves, les étudiants que vous avez sont particulièrement, disons, intelligents, éveillés, etc. Donc il faut leur donner quelque chose qui nourrissent, disons, leurs émotions, mais qui nourrissent aussi leur intelligence. Oui.
Oui, nous avons vu deux dimensions qui sont la dimension individuelle et la dimension culturelle qui est en fait collective, n'est-ce pas? Il y a un grand nombre de discours à ce sujet avec de nombreuses variétés. Et je me demande s'il ne faudrait pas rajouter une troisième dimension qui serait la dimension universelle. Apporter de la dynamique dans ce discours.
Oui, alors moi je suis tout à fait d'accord avec vous, mais j'essaie de ne pas trop raisonner comme ça. C'est-à-dire, j'ai cité à Tokyo une enquête en Argentine où on demandait à des élèves de 13-14 ans s'ils apprenaient le français pour apprendre la culture française ou bien pour élargir leur culture générale. Il n'y en a que, 10% à peu près qui ont dit pour apprendre la culture française, les autres ont dit pour élargir notre culture générale. Et ça me paraît une très bonne intuition chez ces élèves, c'est que pour devenir plus humain, comme je disais tout à l'heure, eh bien il faut aller au-delà des particularités des langues qu'on apprend. Moi je pense que c'est très difficile de définir l'universel en termes positifs. Ce que l'on peut simplement dire, c'est ça n'est pas universel parce que cela se comporte comme ça, etc. C'est-à-dire l'universel devrait se définir, à mon avis, qu'en termes négatifs. C'est-à-dire ce qui... Il y a un grand traducteur allemand, Walter Benjamin, dont certains d'entre vous ont entendu parler, qui est aussi un grand écrivain, et il disait que Dieu se cachait entre les langues. Mais c'est cette idée que ce qui est plus humain, c'est ce qui échappe au conditionnellement des langues. Parce que si vous vous enfermez dans le conditionnement des langues, vous tombez dans ce que j'ai dénoncé au début, c'est-à-dire ce nationalisme, disons, culturel ou ethnico-religieux culturel, etc., qui a souvent des connaissances, des conséquences mortelles, disons, ou qui peut avoir des conséquences mortelles. Devenir plus humain, dans mon esprit, ça veut dire ça, c'est-à-dire parvenir de manière peut-être ponctuelle ou par moment à dépasser le conditionnement, disons, culturel et social qui nous font tels que nous sommes.
Je voudrais vous donner un exemple concret qui amène à cette réflexion. C'est qu'avant de venir au Japon, il y a un peu plus de 20 ans, tout le monde m'a dit, tu verras, le Japon c'est totalement différent, c'est un autre monde, les gens sont différents, les comportements, les modes de pensée, tout ça. Et quand je suis arrivé, qu'est-ce qui est tellement différent ? Moi, mon impression, c'était finalement, c'est pas si différent de ça. On retrouve quelque chose d'universel qu'on trouve en fait dans le monde entier, dans tous les pays, toutes les cultures, avec des nuances, mais rien de fondamentalement différent. Ça, c'est mon impression que j'ai eue au départ. Après, je me suis dit, il y a quand même des différences importantes, mais pas fondamentales.
S'il y avait des différences radicales, ça voudrait dire que les traductions ne seraient pas possibles, ça voudrait dire bon, beaucoup de choses. Donc on tomberait, à mon avis, dans les apories de Heidegger que j'ai cité tout à l'heure. Oui.
Pas tomber non plus dans l'excès inverse, à savoir qu'il n'y a pas de différence du tout, ou les différences sont des différences de nuance, des différences de surface, etc. Bon, moi j'ai un peu un sentiment.
Parler plus fort, je pense.
J'ai un sentiment un peu différent de Lucien, à savoir que moi je suis arrivé au Japon il y a 15 ans, et j'avais déjà un sentiment qu'il y a beaucoup de différences, et au fur et à mesure que je suis au Japon, j'ai le sentiment qu'il y en a de plus en plus, enfin, c'est-à-dire que j'ai une meilleure perception de ces différences. Et que donc, en quelque sorte, je m'aperçois que les différences ne sont pas seulement superficielles, les différences de nuances, elles sont très profondes. Alors, j'ai essayé d'écrire des choses sur ça, d'écrire des articles et d'essayer de comprendre un certain nombre de choses. Et bon, il y a une chose que vous avez dit, qui est très intéressante, c'est de donner aux étudiants le contenu émotionnel et réflexif de la culture. Hein, quand on travaille sur la culture, sur une culture étrangère, il y a cette émotion que vous avez transmise et on va essayer. L'idée, ça serait effectivement d'essayer de transmettre aux étudiants cette émotion, cette sensation d'exotisme, etc. Mais comment le faire? Et là, je pose une question parce que vous avez dit que c'était Raymond Carole que vous avez cité tout à l'heure, non?
René Carole, oui. Ou Raymond peut-être, oui, c'est une femme. Oui.
Donc Raymond Carole, effectivement, avec un livre très 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 intéressant sur les différences culturelles entre la France et les États-Unis, à travers l'expérience qu'elle a dans sa famille, sur l'expérience avec son mari, etc. Effectivement, il y a ce refus de l'explication chez Raymond Carole, qui est très intéressant parce que effectivement elle veut pas donner de généralité, de structure ou quoi que ce soit, donc elle présente des anecdotes et c'est simplement la lecture de ces anecdotes qui provoque chez nous des choses intéressantes. C'est vraiment un point de départ très intéressant, d'ailleurs avec les étudiants c'est aussi un point de départ très intéressant, mais en tant que chercheur, si on cherche pas l'explication, ça c'est directement quelque chose que je reproche à l'approche Carole, c'est si on cherche pas l'explication en tant que chercheur, on va où? C'est-à-dire que c'est bien de donner des anecdotes et ponctuel sur les cultures, les chocs culturels, les différences entre les Français et les Japonais, etc. Mais si on veut essayer de trouver, il me semble qu'il y a un moment, il faut quand même essayer de trouver de la structure là derrière. Et à partir du moment où on commence à trouver de la structure là derrière, on peut faire des ponts entre ces anecdotes, trouver des choses entre ces anecdotes, etc.
Je vous répondrai ce que Comenius, je ne sais pas si vous connaissez Comenius, certains pensent que c'est le père de la didactique des langues en particulier. Il vivait en Europe centrale au début du XVIIe siècle et il a écrit la Didactica Magna, la grande didactique, dans une première version en tchèque en 1628 et dans une seconde en latin en 1647. Et là-dedans, il dit que le professeur ne doit pas enseigner tout ce qu'il sait. Il doit enseigner simplement ce qui aide les élèves à apprendre. Alors, en tant que chercheur, vous pouvez très bien trouver toutes les explications que vous voulez, etc. Mais, à mon avis, dans une classe de langue, ça n'est pas le but de montrer votre science. C'est-à-dire, c'est plutôt donner l'occasion aux élèves, par eux-mêmes, de se trouver des explications qui leur conviennent. C'est-à-dire qu'ils tiennent compte de leur expérience personnelle. C'est typique, par exemple, vos deux réactions. C'est très lié à l'individualité, ce que je dis là. Parce que vos réactions, vous dites « moi quand je suis arrivé, moi quand je suis arrivé ». C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est très lié à la personne, à la manière dont elle le vit, disons. Et par conséquent, ce qui importe, c'est le retentissement personnel chez l'étudiant. C'est ça qui l'aide dans son apprentissage. Peut-être qu'après, plus tard, à un niveau plus avancé, vous pouvez faire, enseigner l'ethnologie du Japon ou tout ce que vous voulez. Mais c'est, à mon avis, c'est un autre type de cours que ce dont je parle là. quand Ségalène fait cette réflexion, je vous dis, c'est qu'il commençait à apprendre le chinois au Langzhou à Paris. Et donc, bon, ça il faut quand même, je ne l'ai pas dit, mais parce que c'est évident pour vous, mais par exemple, quand je faisais des cours à Kyoto, là, il y avait trois étudiantes chinoises et un étudiant chinois de Hong Kong. Les trois étudiantes chinoises avaient appris le japonais à la chinoise, si je peux dire, parce que je connais, j'y suis allé plusieurs fois quand même, c'est-à-dire dans un établissement où il faisait 25 heures à 30 heures de japonais par semaine. C'est comme ça qu'on apprend les langues étrangères. Vous, dans les cas très souvent, c'est 90 heures ou 180 heures sur 2 ans. Donc c'est très extensif. Donc on ne peut pas appliquer les mêmes, disons, les mêmes méthodes, les mêmes... et quand c'est très extensif comme ça, on ne peut pas spéculer autant qu'on le fait, disons, sur la mémorisation, la répétition, le réemploi, quand on a 25 heures de cours par semaine, vous comprenez bien. Donc il y a ça aussi. Donc je pense que pour entretenir la motivation de vos étudiants, il faut que ça les nourrisse émotivement, disons, et intelligemment. Mais enfin, dans mon esprit au moins, je pense que c'est pas au professeur à déverser son savoir, si je peux dire, même s'il est intelligent, intéressant, dans ce cours de langue, dans ce cours-là.
Je me suis mal exprimé. Hein. C'était pas du tout la question de parler de ça dans la classe. C'était la question de savoir si on est bien parti de savoir si les différences étaient de surface ou pas, si les différences étaient profondes ou pas, et de quelle manière, à partir d'éléments divers qu'on va relever dans l'existence, comme le fait Raymond Carole, de quelle manière on va réussir à trouver des choses plus profondes, exprimer ces différences. Maintenant, ce qui se passe dans la classe, c'est que en surface, on peut faire exactement ça, mais il y a un certain moment où sans étaler sa science, il y a un certain moment où il faut quand même passer par des explications, quelque part. Même si ces explications ne sont pas érudites, remplies de citations d'auteurs ou de choses de ce genre-là. On peut très bien, par exemple, le cas du chien sur le bord de la route, ça nécessite quand même une explication culturelle à un moment.
Je suis un peu réticent là-dessus parce que les explications sont toujours plus ou moins, je crois qu'elle a raison, les explications sont toujours plus ou moins, disons, marquées par un certain ethnocentrisme. Simplement parce que c'est exprimé dans une langue. Et une langue est toujours porteuse d'un certain ethnocentrisme. D'où l'idée de ce nationalisme culturel dont je parlais tout à l'heure. C'est très difficile de tenir un discours objectif sur ces questions-là, à mon avis. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas tenir des discours intelligents. Par exemple, là où j'ai pris cet extrait de Kato Suishi, c'est un entretien de 70 pages ou 80 pages, qui a été traduit en français de manière très, très agréable à lire. Kato connaissait à la fois la culture occidentale, les cultures occidentales, disons, et la culture japonaise. Il donne des raisons, des causes, des différentes interprétations. Mais il présente ça comme des hypothèses, les hypothèses qu'il a forgées lui-même. Mais ces hypothèses sont très difficiles à prouver, disons. Elles sont plus ou moins éclairantes, disant « Ah oui, tiens, c'est comme ça », mais elles sont difficiles à prouver. Sauf à imaginer des théories du genre Lévi-Strauss ou quelque chose comme ça, oui, très, très élaborées. Oui.
Alors, tout d'abord, je vous remercie beaucoup d'avoir cité ça de moi.
Mais c'est que j'ai...
Parce que tu ne savais pas que mon livre a tant de valeur. Bon, maintenant, je voudrais vous poser une question.
Oui.
Alors, maintenant, malheureusement, la situation m'oblige de m'occuper de moins en moins des cours du français dans lequel j'ai épuisé cette idée-là. Et par contre, je suis obligé de m'occuper, de parler de la culture française avec ma langue, en japonais. Alors, pouvez-vous me donner quelques conseils Il y a des choses qu'il faut éviter dans ce cas-là.
C'est une question importante parce que tout n'est pas que cours de
langue. Oui, il doit y avoir. Ce n'est pas uniquement moi. Hein.
Mais non, je sais bien. Mais sincèrement, je n'oserais pas vous donner de conseils sur ça. Sincèrement, simplement parce que je n'en ai pas moi-même l'expérience. Je me suis jamais lancé, disons, dans la description de ce qui serait spécifique à la culture, disons, d'un pays dont je connais plus ou moins la langue. Je me suis jamais lancé là-dedans. Donc, je vois plutôt les difficultés que ce qu'il est possible de faire.
Ça veut dire que je serais obligé de chercher moi-même cette
fois. Oui, je crois. Enfin, ou du moins, c'est pas à moi que vous pouvez demander. C'est pas à moi. Mais l'interview de Kato me paraît très intéressant à ce point de vue-là, quand il parle des encyclopédies japonaises. Vous savez, il a dirigé une encyclopédie qu'il appelle de la littérature japonaise, mais qui englobe, disons, beaucoup plus que la littérature au sens étroit, qui englobe la pensée japonaise, disons, d'un point de vue historique depuis très longtemps. Et il compare ça avec une encyclopédie précédente, qui était plutôt une encyclopédie japonaise, mais tournée vers l'Occident. C'est-à-dire où on décrivait la civilisation anglaise, française, etc. Mais moi, je n'ai pas, disons, cette expérience, donc je ne peux pas vous faire part de mes conseils. Je n'en ai pas, je ne peux pas vous donner ça.
Merci.
L'heure passe, donc si vous avez la dernière question...
Moi, c'est une question que Joséphine posait, mais qui m'inquiète quand même. J'insistais beaucoup sur l'accès à l'émotion, sur la dimension affective. Je crois que je suis entièrement d'accord avec vous. Elle supporte tout apprentissage, de toute façon, quel qu'il soit, et pas seulement la langue. Et vous évoquez cette liste de cribles que je trouve très, très intéressante. Alors, moi-je, puisqu'on est au siècle des moi-je, je suis au Japon depuis bien peu de temps. Et nous avons affaire à un système d'apprentissage qui est totalement différent de ce que nous pouvons proposer, ou qui est quand même relativement différent de ce que nous pouvons proposer dans les établissements d'enseignement japonais et ce que nous pouvons proposer dans les structures comme les instituts, les alliances françaises. Et c'est la relation à l'enseignant qui... c'est pas uniquement la séparation entre deux méthodes d'apprentissage. Et j'ai presque envie de poser la question de... Existe-t-il, de votre point de vue, dans un pays comme le Japon, où le rapport au sensei est vraiment extrêmement étroit, un crible de l'enseignant, au même titre?
Mais évidemment qu'il existe un crible de l'enseignant.
Pendant des années...
Oui, mais bon...
Ça finit par poser un problème, cette dimension affective.
Mais non, mais vous avez raison de la poser. Simplement, bon, vous savez qu'il y a des recherches relativement récentes, mais qui montrent que l'intelligence la plus abstraite est liée à des émotions aussi. C'est-à-dire que on ne peut pas réfléchir, disons réellement, pas répéter quelque chose que l'on a appris ou on ne peut pas réfléchir sans un certain état émotif qui accompagne la réflexion. Alors, le professeur, c'est très difficile de parler de cette question parce que selon que vous êtes enseignant natif de la langue que vous enseignez, ou enseignant non natif, vous n'avez pas les mêmes atouts et les mêmes possibilités. Moi, quand je parle de mon expérience, c'est parce que c'est en... oui, le buffet nous attend.
Tu as encore du temps, non ?
Ah bon ?
Le buffet est à 6 heures, donc il y a un petit peu de temps,
mais encore un peu de temps.
Ah d'accord, d'accord.
C'est intéressant
l'interprétation, là. Il y a
un crible. Non, j'ai lu trop vite, excusez-moi. D'accord. Quand je parle, disons, pas quand j'écris, mais quand je parle de mon expérience, c'est-à-dire où j'entretiens un certain rapport avec les élèves dans la classe parce que, à travers moi, il identifie un peu la culture française. J'ai là un passage, par exemple, où c'est un cours d'italien et c'est... vous savez, pour la formation des professeurs de français langue étrangère, je l'ai dit rapidement à Kyoto, une des expériences, c'est l'apprentissage de la langue inconnue. Et là, c'est tiré d'un journal d'un étudiant qui a commencé à apprendre l'italien, et voilà ce qu'il dit à propos de la dame qui lui enseigne l'italien. L'élément culturel le plus important du cours était l'enseignante elle-même. mais ça marche, disons, quand vous êtes natif de la langue que vous enseignez. Elle a su nous faire comprendre que la langue n'était pas séparable de la sensibilité culturelle du pays où elle se parle. Tout ça est très juste, évidemment. Sa personnalité plongeait le groupe, de l'avis unanime, dans un véritable bain d'Italie. Mimo, gestualité, colère, éclat de rire. Et l'étudiant continue en disant « Je la comprends mieux que le livre. Parce qu'elle décrit très bien les gens. Et dans les livres... il nous ressemble vraiment beaucoup plus. C'est-à-dire que les livres, évidemment, Jabès que j'ai cité disait « le lecteur seul est réel ». Donc, quand vous interprétez un livre, vous êtes seul face à des choses écrites, et donc c'est moins dépaysant qu'une sémillante professeure d'italien, n'est-ce pas ? Et dans les livres, il nous ressemble beaucoup plus, n'est-ce pas ? Mais avec elle, c'est comme quand on va chez eux. Il semble être différent. Je peux même la comprendre, je peux mieux la comprendre que le livre. Voilà. Bon, ça c'est un peu vrai. Mais un professeur qui est non natif de la langue qu'il enseigne a quand même beaucoup d'autres avantages. C'est que lui peut plus aisément se mettre à la place des étudiants et donc mieux comprendre leur perplexité et surtout mieux saisir ce que j'appelais le moment opportun. C'est-à-dire qu'ils savent par expérience personnelle et par la connaissance de la culture des élèves que tel point va déclencher quelque chose chez les élèves, alors que très souvent le professeur natif, sauf s'il a une très longue expérience, n'y fait pas attention. Peut-être plus tard, il se rend compte « Ah, j'aurais dû profiter de ce moment-là pour leur enseigner telle et telle chose. » Donc, l'idéal, évidemment, ça serait deux professeurs, et certains le disent. Je crois que ce n'est pas les mêmes atouts et ça ne peut pas se pratiquer de la même manière. Ça ne peut pas se pratiquer dans la classe tout à fait de la même manière.
Au Japon, un étudiant suit son enseignant pendant 4-5 ans. C'est quand même problématique.
Ben, bon, je sais bien, j'ai eu des étudiants en 71 à Tokyo et qui m'appellent toujours Bess-sensei et qui m'écrivent toujours Bess-sensei ou Henri Bess-sensei, etc. Donc, je suis toujours leur professeur quelque part. Bon, c'est plutôt sympathique, disons. C'est pas, je ne vis pas ça comme une chaîne ou comme. J'espère que de leur côté c'est la même chose. Voilà.
Voilà. Bon, peut-être on va terminer. Je tiens à vous rappeler que la semaine prochaine, dans le colloque à l'université de Kyoto, Henri Bess parlera de la contextualisation de la grammaire. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits au colloque, merci de les inscrire vite. Bon, je vous remercie beaucoup, Henri.
Je vais vous donner un exemple du problème de la contextualisation de la grammaire. Un seul. J'ai lu dans un article publié au Japon qu'un professeur français natif juge que la question « As-tu la carte de visite ?» n'est pas du bon français, c'est une faute. Simplement parce que dans l'esprit du professeur français, il considère cette phrase en grammairien, c'est-à-dire soi-disant hors contexte, et donc « As-tu la carte de visite ?» Non, il ne faut pas dire ça, il faut dire « As-tu une carte de visite ?» Mais comme vous savez, en japonais, vous le savez mieux que moi, il n'y a pas d'article défini ou indéfini, c'est le contexte qui définit si c'est une carte bien particulière ou si c'est une carte en général. Et en français, on peut très bien dire « As-tu la carte de visite ?» s'il s'agit d'une carte bien précise. Alors, les problèmes de contextualisation de la grammaire, c'est un peu lié à ce genre de choses, c'est-à-dire des habitus, comme dit Bourdieu, culturels, différents, par rapport, disons, entre les relations entre la langue et le contexte. Bon, voilà.